Chapitre 18. La présidente ne trouvait pas le sommeil. Elle se leva, s'habilla rapidement dans l'obscurité de sa chambre, au cœur de la maison du gouvernement, et fit ce qu'elle faisait souvent quand elle n'arrivait pas à dormir. Elle arpenta les mondes. Son portail d'Istrance privé se matérialisa devant elle. Elle laissa ses gardes humains privés dans l'antichambre et n'emporta avec elle que l'un des mini-drones. Elle ne l'aurait pas pris si les lois de l'hégémonie et le règlement du technocentre ne l'y avaient obligé. Il était plus de minuit sur TC carré, mais c'était le jour sur de nombreux mondes du Retz. Elle prit une longue cape au col incognito montant, à la mode de Renaissance. Son pantalon et ses chaussures ne révélaient ni son sexe ni sa classe sociale. Seule la qualité de l'étoffe de la cape aurait pu, à la rigueur, la situer pour certains. Elle franchit le portail monopasse. Elle sentit, plutôt qu'elle ne vit ou n'entendit, le mini-drone qui bourdonnait derrière elle et prenait de l'altitude pour demeurer discret. Elle s'avança sur la place Saint-Pierre de Nouveau Vatican, sur Passem. Elle ne savait pas pourquoi elle avait entré dans son implant le code de cette destination. Peut-être la présence de ce prélat archaïque au dîner du Bosquet de Dieu? Mais elle se rappela soudain que ses dernières pensées, quand elle n'arrivait pas à s'endormir, avaient été consacrées aux pèlerins, les 7 pèlerins qui étaient partis 3 ans plus tôt affronter leur sort sur Hyperion, et que Passem était l'endroit où résidait le père Hoyt et, avant lui, cet autre prêtre, Duré. Elle haussa les épaules sous sa grande cape et traversa la place. Une petite visite aux différents mondes des pèlerins, ce n'était pas plus bête comme destination que d'aller au hasard sur une douzaine de planètes avant de retourner, juste avant l'aube, sur Tau Ceti Central pour affronter les premières réunions de la journée. En l'occurrence, elle n'aurait pas plus de 7 mondes à voir. Il faisait jour tôt sur Passem. Le ciel était jaune avec des nuages verdâtres et une odeur d'ammoniaque qui lui agressait les sinus et lui faisait larmoyer les yeux. L'air était imprégné des effluves chimiques nauséabondes d'un monde non encore totalement terraformé, mais qui n'était pas entièrement hostile à l'homme. Elle s'arrêta pour regarder autour d'elle. Saint-Pierre se trouvait au sommet d'une colline. La place était bordée d'un demi-cercle de colonnes avec la grande basilique au sommet de la courbe. À la droite de Gladstone, là où les colonnes s'ouvraient sur un escalier qui descendait, sur 1 kilomètre ou plus, en direction du sud, une petite ville était visible, avec des maisons rudimentaires tassées au milieu d'arbres blanchis, qui ressemblaient à des squelettes de créatures difformes depuis longtemps disparues. Peu de gens étaient en vue. Ils traversaient la place à grands pas ou montaient les marches, comme s'ils étaient en retard pour la messe. Les cloches commencèrent à sonner sous le grand dôme de la cathédrale, mais l'atmosphère ténue ôtait au son toute son autorité. Gladstone traversa la colonnade en baissant la tête, ignorant les regards curieux des prêtres et les équipes de nettoyage des rues qui chevauchaient un monstre ressemblant à un porc-épic de 10 tonnes. Il y avait dans le Retz des dizaines de mondes marginaux comme Passem. Il y en avait d'autres parmi les protectorats et dans les confins, trop pauvres pour attirer des citoyens infiniment mobiles, mais trop semblables à la Terre pour être ignorés durant la sombre époque de l'Égire. Celui-ci avait été élu par un petit groupe de catholiques venus essayer de faire revivre leur foi. Ils étaient alors plusieurs millions. Leur nombre ne devait pas dépasser aujourd'hui quelques dizaines de mille. Gladstone ferma les yeux pour se remettre en mémoire les holos figurant dans le dossier de Paul Duré. Elle adorait le Retz. Elle aimait les humains qui le peuplaient. Malgré leur caractère superficiel, égocentrique, malgré leur incapacité à changer, ils étaient l'étoffe dont l'humanité était faite. Gladstone aimait le Retz de tout son cœur. Elle l'aimait assez pour savoir qu'il fallait qu'elle aide à sa destruction. Elle retourna vers le petit Terminex à 3 portes, fit apparaître son propre Nexus d'Istrance au moyen d'une simple commande prioritaire adressée à l'infosphère et franchit la porte pour se retrouver, de l'autre côté, dans la lumière du soleil et l'odeur de la mer. Alliance Maui. Et elle savait exactement à quel endroit elle se trouvait. C'était là, sur la colline dominant le site numéro 1, que se dressait le tombeau de Ciri, à l'emplacement même où l'insurrection de courte durée avait débuté près d'un siècle auparavant. En ce temps-là, le site numéro 1 était un village de quelques milliers d'habitants, et les flûtistes, à chaque période de festival, jouaient pour souhaiter la bienvenue aux îles mobiles qui gagnaient leur territoire nourricier au nord de l'archipel équatorial. Aujourd'hui, le site numéro 1 s'étendait à perte de vue sur toute l'île. Ses tours cambrées et ses ruchers résidentiels de 5 ou 600 mètres de haut se dressaient partout, dépassant la colline qui offrait autrefois le plus beau panorama de tout le monde marin d'Alliance Maui. Le tombeau, cependant, demeurait inchangé. Le corps de la grand-mère du consul n'y était pas. Il n'y avait jamais été en réalité. Cependant, comme tant d'autres symboles de cet univers, la crypte vide commandait le respect, un respect presque surnaturel. Gladstone laissa errer son regard entre les tours, jusqu'à la vieille jetée derrière laquelle les eaux du lagon, autrefois d'un bleu pur, étaient devenues boueuses. Au-delà des plateformes de forage et des barges de touristes, commençait la mer libre. Mais il n'y avait aucune île mobile en vue. Les grands troupeaux ne traversaient plus l'océan avec leurs voiles gonflées sous la brise du sud et leurs éclaireurs dauphins qui ouvraient la route en traçant des sillages blancs en forme de V. Les îles étaient apprivoisées et peuplées, en majeure partie, de citoyens du Retz. Les dauphins étaient morts. Certains s'étaient fait tuer durant les grandes batailles contre la force, mais la plupart avaient péri lors de l'inexplicable suicide collectif des mers du Sud. C'était le dernier grand mystère d'une espèce qui n'avait été faite que de mystères. Gladstone prit place sur un banc au bord de la falaise, et cueillit un brin d'herbe qu'elle se mit à mâchonner comme elle faisait souvent. Que se passait-il quand un monde à la population de 100 000 personnes, en équilibre délicat avec une écologie fragile, se transformait en base de loisirs pour plus de 400 millions de citoyens durant la première décennie de son appartenance à l'hégémonie? Réponse : ce monde était condamné à mourir. Ou du moins, à perdre son âme. Même si son écosphère continuait à fonctionner tant bien que mal. Les écologistes planétaires et les spécialistes de la terraformation maintenaient en vie une coque vide. Ils empêchaient les océans d'étouffer complètement sous la pollution inévitable, les rejets industriels et les marées noires. Ils travaillaient à minimiser ou déguiser les nuisances sonores et les mille et un inconvénients apportés par le progrès. Mais l'alliance Maui que le consul avait connue dans son enfance, moins d'un siècle plus tôt, quand il avait gravi cette même colline pour assister aux funérailles de sa grand-mère, avait disparu pour toujours. Une formation de tapis hawking passa dans le ciel. Les touristes qui les chevauchaient riaient aux éclats et s'interpellaient bruyamment. Beaucoup plus haut qu'eux, un gros VEM d'excursion occulta le soleil durant quelques minutes. Dans son ombre, Mayna Gladstone jeta le brin d'herbe et posa les coudes sur ses genoux. Elle songeait à la trahison du consul. Elle l'avait escompté, elle avait joué là-dessus, sachant qu'un homme comme lui, élevé sur cette planète et descendant direct de Syrie, sauterait sur l'occasion de se ranger du côté des extros dans l'inévitable bataille dont Hyperion était l'enjeu. Elle n'avait pas été seule à fomenter ce plan. Leigh Hunt avait joué un rôle important dans sa préparation qui avait duré des décennies. Il s'était agi de placer le bon individu au bon endroit pour qu'il contacte les extros et qu'il soit persuadé, en activant les dispositifs qui annulaient le champ anentropique des marées du temps d'Hyperion, de trahir les deux camps à la fois. Le consul avait agi comme prévu. Cet homme, qui avait donné à l'hégémonie 40 années de sa vie et qui avait perdu sa femme et son enfant pour la même cause, avait fini par faire exploser sa vengeance comme une bombe à retardement demeurée inactive pendant près d'un demi-siècle. Gladstone n'avait tiré aucune satisfaction de cette trahison. Le consul avait vendu son âme, et il aurait à payer pour cela un terrible prix, aussi bien dans l'histoire que dans son propre esprit. Mais cette trahison n'était encore rien à côté de celle qu'elle s'apprêtait à commettre. En tant que présidente de l'hégémonie, elle était le chef symbolique de 150 milliards d'âmes humaines, et elle se préparait à les trahir toutes, sous prétexte de sauver l'humanité. Elle se leva, ressentant le poids de l'âge et des rhumatismes dans ses os. Elle marcha lentement jusqu'au Terminex. Elle s'arrêta quelques instants devant le portail qui bourdonnait doucement, regardant par-dessus son épaule, pour contempler une dernière fois Alliance Maui. La brise venue de la mer n'apportait que l'odeur du pétrole et des gaz des raffineries, et elle détourna rapidement la tête. Le poids de l'Usus tomba sur ses épaules comme une lourde chaîne d'acier. C'était l'heure d'affluence dans le quartier marchand, et des milliers de citadins, de banlieusards et de touristes venus faire leurs courses encombraient les galeries et les escaliers mécaniques, parfois longs d'un kilomètre, de leur humanité bigarrée, donnant à l'air une lourdeur recyclée qui se mêlait aux effluves d'huile et d'ozone du circuit atmosphérique fermé. Ignorant les niveaux les plus luxueux, elle emprunta une navette perse transautomatique pour parcourir les 10 kilomètres qui la séparaient du temple Grichtek. Il y avait des barrières de police et des champs de confinement mauves à la sortie du large escalier d'accès. Le temple lui-même était dans l'obscurité, ses ouvertures barricadées de planches. Plusieurs vitraux donnant sur le quartier marchand avaient été brisés. Gladstone avait reçu des rapports sur ces émeutes plusieurs mois auparavant. On disait que l'évêque et son entourage avaient fui l'Usus. Elle se rapprocha du champ de confinement. Elle regarda quelques instants le grand escalier que Brown Lamia avait gravi en traînant son client et amant mortellement blessé, le premier cybride de Keats, pour demander asile au prêtre Grichtek qui les attendait. Gladstone avait bien connu le père de Brown. Elle avait siégé plusieurs années au Sénat en même temps que lui, à leur début. Byron Lamia était un homme brillant. À une époque, bien avant que la mère de Brown n'arrive de sa lointaine province de Friholm, Gladstone avait même envisagé de l'épouser. Quand il était mort, elle avait senti qu'une partie de sa propre jeunesse était enterrée avec lui. Le sénateur Byron Lamia avait toujours eu l'obsession du technocentre et de la mission qu'il s'était donnée de libérer l'humanité de la servitude que les IA lui imposaient depuis 5 siècles, sur des milliers d'années-lumière de distance. C'était lui qui lui avait fait prendre conscience du danger et qui était à l'origine de la terrible trahison qu'elle s'apprêtait à commettre. C'était le suicide du sénateur qu'il avait incité, depuis des décennies, à ne jamais relâcher sa prudence. Elle ignorait si c'était des agents du centre qui avaient orchestré sa mort ou si c'était seulement des éléments de la hiérarchie hégémonienne qui avaient agi de manière à protéger leurs intérêts menacés. La seule chose dont Gladstone était certaine, c'était que Byron Lamia n'aurait jamais mis délibérément fin à ses jours, n'aurait jamais abandonné de cette manière sa femme et sa fille. Son dernier acte politique au Sénat avait été de proposer le statut de protectorat pour Hyperion, ce qui aurait eu pour effet de faire entrer cette planète au sein du RETS 20 années standard avant les événements qui se déroulaient en ce moment. Après sa mort, la proposition, que soutenait également une certaine Mayna Gladstone, dont on commençait à parler, avait été purement et simplement retirée. Elle trouva un puits de chute et quitta les niveaux marchands et résidentiels pour s'enfoncer dans les zones de service et de maintenance, puis dans celles des réacteurs. Les haut-parleurs du puits, en même temps que ceux de son persoc, commencèrent à l'avertir qu'elle pénétrait dans des secteurs non autorisés au public, à une grande profondeur sous les ruchers, où la sécurité ne pouvait plus être assurée. Le programme du puits essaya d'arrêter la descente, mais elle lança un code prioritaire et fit taire les messages d'alarme. Elle continua de s'enfoncer dans des niveaux où l'éclairage était de plus en plus rudimentaire, parmi des enchevêtrements de câbles à fibre optique et de conduites de chauffage et de réfrigération. Finalement, elle s'arrêta à un endroit où la roche était nue. Gladstone sortit dans un couloir mal éclairé par quelques globes bioluminescents et par une peinture phosphorescente à l'aspect huileux. Des gouttes d'eau tombaient de 1000 fissures du plafond et des parois, s'accumulant en flaques à l'aspect toxique. Des jets de vapeur sortaient d'ouvertures qui communiquaient peut-être avec d'autres galeries ou qui n'étaient que de simples trous. Quelque part, au loin, on entendait le rugissement ultrasonique du métal mordant le métal. Beaucoup plus près, elle perçut quelques accords électroniques de Nihil Music, puis un cri d'homme suivi d'un rire de femme. Des voix résonnèrent, métalliques, dans les conduites et les puits. Un fusil à fléchette fit entendre sa détonation rêche. La ruche des poisses. Gladstone arriva à une intersection de galeries et s'arrêta pour regarder autour d'elle. Le mini-drone descendit tourner au-dessus de sa tête en bourdonnant comme un insecte en colère. Il demandait impérieusement de l'aide. Seul le code prioritaire de la présidente l'empêchait de se faire entendre plus fort. La ruche des poisses. C'était là que Brown Lamia et son amant Sibrid s'étaient cachés durant les quelques heures qui avaient précédé leur tentative de se réfugier dans le temple Grichtek. C'étaient les bas-fonds du Retz, l'un des nombreux endroits fréquentés par la pègre, où l'on pouvait se procurer au marché noir à peu près n'importe quoi, depuis le flashback jusqu'aux armes spéciales de la Force, en passant par les androïdes interdits ou les traitements Poulsen parallèles qui pouvaient aussi bien vous tuer que vous rajeunir de 20 ans. Elle prit, sur sa droite, la galerie la plus sombre. Quelque chose de la taille d'un rat, mais avec beaucoup plus de pattes, détala pour s'engouffrer dans un conduit de ventilation cassé. Gladstone sentit les odeurs d'égout, de sueur humaine et d'ozone qui venaient des niveaux saturés de l'infoplan. Le parfum douceâtre d'un propergol d'armes individuelles parvint également à ses narines, mêlé à une odeur âcre de vomi et de phéromones transformés en toxines. Elle continua d'avancer dans la galerie, en songeant aux semaines et aux mois à venir, en songeant au terrible prix que les mondes allaient avoir à payer comme conséquence de ses décisions et de son obstination. 5 jeunes, transformés par des ARNistes d'arrière-boutique au point qu'ils ressemblaient davantage à des animaux qu'à des humains, débouchèrent d'un couloir devant elle. Le mini-drone descendit à sa hauteur, devant elle, et désactiva ses polymères de camouflage. Les créatures se mirent à rire, ne voyant sans doute qu'une machine de la taille d'une guêpe qui tournoyait devant eux d'un air dérisoirement menaçant. Ils étaient peut-être trop avancés dans leur transformation ARN pour être même capables d'identifier cette machine. 2 d'entre eux ouvrirent des lames pulsantes. 1 troisième exhiba des griffes d'acier de 10 cm de long. 1 quatrième fit tourner le canon rotatif d'un pistolet à fléchette. Gladstone préférait éviter le combat. Elle savait, même si ces créatures paumées de la ruche des poisses l'ignoraient, que le drone pouvait tenir tête à 100 agresseurs de leur acabit. Mais elle ne voulait pas que quelqu'un soit tué simplement parce qu'elle avait choisi cet endroit pour occuper ses moments d'insomnie. « Fichez le camp !» leur dit-elle. Ils la regardaient fixement de leurs gros yeux protubérants, jaunes ou noirs, fendus, membraneux, ou reliés à des bandeaux abdominaux photosensibles. Tous en même temps, se déployant en demi-cercle, ils avancèrent de 2 pas. Elle se dressa de toute sa hauteur, drapa plus étroitement la cape autour de ses épaules et abaissa suffisamment le col incognito pour qu'il puisse voir ses yeux. « Fichez le camp !» répéta-t-elle. Ils n'avancèrent pas davantage. Écailles et plumes vibrèrent sous l'action de brises invisibles. Sur 2 d'entre eux, des antennes frémirent et des milliers de petits poils sensoriels se hérissèrent. Ils disparurent aussi soudainement qu'ils étaient arrivés. Une seconde plus tard, on n'entendait plus que le bruit de l'eau qui gouttait et quelques rires lointains. Gladstone secoua la tête, fit apparaître sa porte distance personnelle et la franchit silencieusement. Sol Weintraub et sa fille étaient originaires du monde de Barnard. Gladstone se distransporta vers un terminex miroir de la ville de Crawford. C'était le soir. Les petites maisons basses, toutes blanches, au milieu de pelouses immaculées, reflétaient les sensibilités de la République revivaliste canadienne et le caractère pratique des agriculteurs locaux. Les arbres étaient grands, avec des rameaux massifs, et rendaient honneur d'une manière assez stupéfiante à l'héritage de l'ancienne terre. La présidente évita le flot des piétons qui, pour la plupart, rentraient chez eux après leur journée de travail sur une autre planète du Retz. Elle emprunta une allée bordée de bâtiments de briques rouges et conduisant à un grand espace vert de forme ovale. Sur sa gauche, elle apercevait des champs cultivés au-delà des maisons. C'était peut-être du maïs, dont les plantations s'étendaient jusqu'au soleil couchant, gros et rouge à l'horizon. Elle traversa le campus en se demandant vaguement si ce n'était pas l'université où avait enseigné Sol. Mais elle n'était pas assez intéressée pour interroger l'infosphère à ce sujet. les réverbères étaient en train de s'allumer un peu partout, et les premières étoiles étaient visibles à travers les frondaisons. Le ciel passa rapidement de l'azur à l'ambre, puis à l'ébène. Gladstone avait lu le livre de Weintraub, « Le dilemme d'Abraham », dans lequel il analysait la relation existant entre un Dieu qui exigeait le sacrifice d'un fils et l'espèce humaine qui acceptait une telle chose. Weintraub faisait valoir que le Jéhovah de l'Ancien Testament ne voulait pas seulement mettre Abraham à l'épreuve, mais qu'il avait communiqué dans le seul langage de loyauté, d'obéissance, de sacrifice et de commandement que l'humanité était capable de comprendre à ce stade de relation. Weintraub interprétait le message du Nouveau Testament comme le présage d'un nouveau type de relation où l'humanité ne sacrifierait plus ses enfants à aucun dieu pour aucune raison, mais où ce seraient les parents, des parents de toute race, qui s'offriraient en sacrifice à leur place. Ainsi s'expliquaient les holocaustes du XXe siècle, l'échange limité, les guerres tripartites, les siècles de sauvagerie et même peut-être la grande erreur de 38. Pour finir, Weintraub traitait du refus de tout sacrifice, du refus d'entretenir avec Dieu toute relation fondée sur autre chose que le respect mutuel et le désir honnête de compréhension réciproque. Il parlait des multiples morts de Dieu et du besoin de résurrection divine maintenant que l'humanité avait fabriqué ses propres divinités et les avait lâchées dans l'univers. Gladstone traversa un élégant pont de pierre qui franchissait un ruisseau perdu dans l'ombre et dont l'emplacement n'était révélé que par le bruit qu'il faisait en coulant. Une douce lumière jaune filtrait jusqu'aux rambardes de pierre. Quelque part, en dehors du campus, un chien aboya brièvement. Des lumières étaient éclairées au troisième étage d'un vieux bâtiment, une structure de pierre à pignons qui devait dater de l'époque pré-égyrienne. Elle songea à Sol Weintraub, à sa femme Sarai, et à leur splendide fille de 26 ans, de retour d'une expédition archéologique d'un an sur Hyperion, qui n'avait rien découvert de notable à l'exception de la malédiction du Gritch et de la maladie de Merlin. Elle pensa à Sol et à Sarai qui voyaient chaque jour, impuissant, la jeune femme régresser vers l'adolescence, puis l'enfance. Et Sol était resté seul avec sa fille lorsque Sarai était morte dans un accident stupide de VEM à l'occasion d'une visite à sa sœur. Le jour de la naissance de Rachel allait arriver dans moins de 72 heures standard. Gladstone frappa du poing sur la rambarde de pierre, fit apparaître la porte d'Istrance et changea de planète. C'était midi sur Mars. Les bidonvilles de Tarsis étaient là depuis 600 ans au moins. Le ciel avait une teinte rose et l'atmosphère lui semblait trop ténue et trop froide, malgré la grosse cape qu'elle portait. Partout, le vent faisait voler la poussière. Elle suivit les étroites allées et les sentiers de la falaise de la Cité du Repeuplement, sans jamais tomber sur une trouée qui pût lui permettre de voir au-delà des taudis les plus proches ou des tours de filtrage aux parois suintantes. Il y avait peu de végétation sur ce monde. Les grandes forêts du boisement avaient été détruites pour être transformées en bois de chauffage, ou bien elles étaient mortes d'elles-mêmes, et les dunes rouges les avaient recouvertes. Seules étaient visibles, autour des sentiers tassés par 20 générations de pieds nus, quelques cactus utilisés dans la fabrication clandestine d'une sorte de mauvais brandy et des plaques de lichen parasites à pattes d'araignée. Gladstone s'assit sur un rocher plat et entreprit de masser ses genoux fatigués. Des bandes d'enfants à moitié nus surgirent de nulle part autour d'elle, mendiant un peu d'argent, puis s'égayèrent comme des moineaux en voyant qu'elle ne réagissait pas. Le soleil était haut dans le ciel. Ni l'Olympus, ni l'école militaire où Cassad avait été élève officier de la force, n'étaient visibles de cet endroit. C'était dans ces taudis que le fier colonel avait grandi, au milieu de ces bandes de gamins déshérités, jusqu'à ce que son destin l'appelle à l'ordre, à la rigueur et aux plus hauts honneurs de la carrière militaire. Elle trouva un endroit discret pour faire apparaître son portail et le franchir. Le bosquet de Dieu était, comme toujours, parfumé des senteurs de millions et de millions d'arbres que faisait frémir une douce brise sous un ciel pastel, éclairé par les rayons obliques du soleil levant. La voûte feuillue où se trouvait la plateforme, à 500 mètres du sol, et de ses touffeurs denses et obscures, dégageait de puissants effluves de végétation mouillée. Un templier s'approcha, vit l'éclat du bracelet d'accès à son poignet lorsqu'elle leva la main, et se retira discrètement, comme il était venu, dans l'ombre des frondaisons massives. Les Templiers constituaient l'une des inconnues les plus sournoises dans le jeu de Gladstone. Le sacrifice de leur vaisseau-arbre Yggdrasil était sans précédent, inexplicable et pour le moins inquiétant. De tous les alliés potentiels sur lesquels elle pouvait compter dans la guerre à venir, aucun n'était aussi mystérieux, insondable et indispensable que les Templiers. La fraternité de l'arbre, dédiée à la défense de la vie et dévouée aux muires, était au sein du Retz une force peu nombreuse mais extrêmement influente, un îlot de conscience écologique dans une société qui paraissait vouée au gaspillage et à l'autodestruction, mais qui refusait de reconnaître ses faiblesses. Où peut bien être Het Mastyn? Pourquoi a-t-il laissé son cube de Möbius aux autres pèlerins? Gladstone contempla le lever du soleil. Le ciel se remplit de montgolfiers orphelines, rescapées du massacre de Wyrl, dont les corps irisés flottaient comme des physalies. Des diaphanes somptueuses déployèrent leurs ailes solaires, fines comme des membranes, pour capter la lumière. Un vol de corbeaux prit son essor en décrivant une spirale, lançant une série de cris rauques qui formèrent un contrepoint au murmure de la brise et au sifflement de la pluie venue de l'ouest dans la direction de Gladstone. Le crépitement insistant des lourdes gouttes sur les feuilles lui rappela son monde natal de Pataufa et la mousson des cent-jours, durant laquelle ses frères et elle battaient les buissons à la recherche de crapauds volants, de bendites et de serpents de mousse qu'ils mettaient dans un bocal pour les porter à leur institutrice. Pour la millième fois, elle se dit qu'il était encore temps de tout arrêter. La guerre totale n'était pas encore devenue inévitable. Les extros n'avaient pas encore contre-attaqué d'une manière que l'hégémonie ne pourrait plus ignorer. Le Gritch n'était pas tout à fait en liberté. Pas encore, du moins. Si elle voulait sauver 100 milliards de vies, il suffisait qu'elle retourne au Sénat pour révéler ses 3 décennies de mensonges et de duplicité, révéler ses craintes et ses incertitudes. Non. Tout allait se passer comme prévu, jusqu'au point de non-retour où l'on ne pourrait plus rien prédire, jusqu'aux eaux profondes du chaos, où même les prévisionnistes du technocentre, ceux qui voyaient généralement tout, seraient aveugles. Elle traversa les plateformes, les tours, les rampes et les ponts de lianes de la cité Arbre des Templiers. Des créatures arboricoles originaires d'une 20aine de mondes et des chimpanzés aérénistés lui lancèrent des cris en s'enfuyant agilement, se balançant à des lianes suspendues à 300 mètres du sol. Des zones interdites aux touristes ou aux visiteurs privilégiés parvenaient des odeurs d'encens et des bouffées de chants grégoriens accompagnant le service du lever de soleil quotidiennement célébré par les Templiers. Au-dessous d'elles, les niveaux inférieurs se réveillaient à la lumière et au mouvement. Les brèves ondées avaient cessé, et elle regagna les cimes, se délectant du spectacle, traversant un pont de bois suspendu de 60 mètres qui reliait son arbre à un autre, encore plus gros, où une demi-douzaine de gros ballons captifs à air chaud, les seuls moyens de transport autorisés par les Templiers sur le bosquet de Dieu, tiraient sur leurs cordes comme s'ils étaient impatients de s'envoler, leurs nacelles se balançant comme de gros œufs jaunes, leurs enveloppes ornées de superbes dessins représentant des créatures vivantes. Montgolfiers, papillons monarques, perviers, diaphanes somptueuses, zeppelins aujourd'hui au bord de l'extinction, calamars volants, phalènes lunaires, aigles, si vénérés dans la légende que personne n'avait essayé de les recréer ou de les aérénister, et bien d'autres encore. Tout cela court le risque d'être détruit si je continue. Tout cela sera irrémédiablement détruit. Elle s'arrêta au bord d'une plateforme circulaire pour s'agripper au garde-fou avec une telle force que les taches de vieillesse sur sa main ressortirent en un contraste accru avec la pâleur de sa peau. Elle songea aux vieux livres qu'elle avait lus sur l'époque pré-égyrienne et pré-spatiale, où les habitants des nations embryonnaires du continent européen de l'ancienne Terre avaient transporté des populations entières de gens à la peau noire, des Africains, pour leur faire mener une vie d'esclave dans l'Ouest colonial. ces esclaves nus et enchaînés, entassés dans le ventre fétide d'un navire, auraient-ils hésité un seul instant à se révolter, s'ils l'avaient pu, et à massacrer leurs ravisseurs? Auraient-ils hésité sous prétexte que la beauté du navire esclavagiste, la beauté de l'Europe elle-même, risquait d'être détruite? Mais ils auraient toujours eu l'Afrique où retourner. Mayna Gladstone laissa échapper un gémissement qui était à moitié un sanglot. Puis elle tourna le dos au glorieux lever de soleil, aux champs qui saluaient une nouvelle journée, et au spectacle des ballons, vivants ou artificiels, qui grimpaient dans un ciel tout neuf. Elle descendit alors dans l'ombre des frondaisons épaisses pour faire apparaître la porte d'Istrance. Il lui était impossible de visiter l'endroit où le dernier pèlerin, Martin Silenus, était né. Le poète n'était âgé que de 150 ans, bien qu'il fût à moitié bleu à force d'avoir suivi des traitements Poulsen. Ses cellules gardaient cependant le souvenir d'une bonne douzaine de fugues cryotechniques, et son existence s'étalait sur plus de 4 siècles. Il avait vu le jour sur l'ancienne terre de la période finale. Sa mère appartenait à l'une des plus grandes familles restées là-bas. Sa jeunesse avait représenté un pastiche de décadence et d'élégance. Il avait côtoyé la beauté comme la décrépitude à l'odeur douceâtre. Sa mère avait choisi de rester jusqu'au bout sur la terre agonisante, mais elle l'avait envoyé dans l'espace pour qu'il y eût au moins quelqu'un en mesure de payer les dettes de la famille, même si cela entraînait, et ce fut le cas, des années de labeur comme travailleur manuel sur l'un des mondes les plus atroces et les plus reculés du Retz. Ne pouvant aller sur l'ancienne terre, Gladstone fit porter son choix sur Heaven's Gate. La capitale s'appelait Plaine des Boues. Elle arpenta ses rues pavées, admirant les grosses maisons anciennes bâties au-dessus des canaux étroits qui formaient un réseau enchevêtré, évoquant une gravure d'échelle sur le versant d'une colline artificielle. Des arbres aux formes élégantes et des fougères géantes couvraient le sommet de la colline, bordaient les larges avenues blanches et s'étendaient à perte de vue autour des plages de sable blanc. Les vagues pourpres de la marée montante s'irisaient de dizaines de couleurs avant de venir mourir paresseusement sur les plages parfaites. Elle s'arrêta à hauteur d'un jardin qui donnait sur la grande esplanade, où de nombreux couples amoureux se promenaient tranquillement parmi des touristes bien habillés, attablés sous des tonnelles, à la lueur de réverbères à gaz. Elle songea à ce que devait être cet endroit 3 siècles plus tôt, quand Heaven's Gate n'avait que le statut de protectorat en cours de terraformation et que le jeune Martin Silenus, souffrant de dislocations culturelles, de la perte de sa fortune et de traumatismes cérébraux dus au choc cryotechnique de son très long voyage, trimait ici en tant qu'esclave. La centrale de production d'atmosphère n'alimentait alors en atmosphère respirable que quelques centaines de kilomètres carrés de terre plus ou moins habitable. Des tsunamis emportaient des villes entières, des chantiers d'aménagement et des gens avec une égale indifférence. Les travailleurs asservis comme Silenus creusaient les canaux d'acide, raclaient les bactéries de recyclage dans les labyrinthes pulmonaires sous la boue et retiraient les scories et les cadavres humains des plaines de boue apportées par la marée et les inondations. « Nous avons accompli des progrès, songeait Gladstone, malgré l'inertie que nous a imposée le technocentre, malgré la mort quasi totale de la science, malgré notre dépendance fatale vis-à-vis des jouets que nous ont donnés nos propres créations. » Elle ressentait un mécontentement amer. Elle avait voulu faire, tout en ayant parfaitement conscience de la futilité de son geste, le tour de toutes les planètes associées aux pèlerins d'Hyperion. Heaven's Gate était le monde où Silenus avait appris à écrire de la vraie poésie, même si son cerveau temporairement endommagé avait presque totalement perdu l'usage du langage. Mais ce n'était pas sa planète. Elle ignora la musique plaisante de l'esplanade, elle ignora le passage dans le ciel des VEM qui se suivaient comme des oiseaux migrateurs, elle ignora la douceur de l'atmosphère et la pureté de la lumière, pour faire apparaître sa porte d'Istrance personnelle et lui commander de la diriger sur la Lune, la vraie Lune terrestre. Au lieu d'obéir immédiatement, le père Soc lui transmit un message d'alerte sur les dangers que présentait cette distranslation. Elle passa outre. Le mini-drone réapparut, et sa voix minuscule dans son implant lui renouvela la mise en garde. Il n'était pas sérieux, de la part de la présidente, de vouloir se rendre en un lieu aussi instable. Elle le fit taire. La porte elle-même commença à discuter son choix, et elle dut utiliser sa plaque universelle pour la programmer manuellement. Le cadre se matérialisa enfin devant Gladstone, et elle se distransporta. Le seul endroit de la vieille lune de la Terre qui fut encore habitable était une zone de montagnes et de marais utilisée pour la cérémonie de Massada de la Force. C'est là que Gladstone ressortit. Les tribunes et le champ de manœuvre étaient déserts. Des champs de confinement de classe 10 voilaient les étoiles et les murs d'enceinte lointains, mais elle distinguait très bien l'endroit où la chaleur interne des terribles marées gravitationnelles avait fait fondre les montagnes qui s'étaient transformées en nouvelles coulées de roches. Elle traversa une plaine de sable gris, ressentant la légèreté de la gravité comme une invitation à voler. Elle s'imagina à la place de l'un des ballons des Templiers, captive et ne demandant qu'à s'envoler. Elle résista à la tentation de faire de grands bonds. Cependant, son pas était léger et elle faisait voler la poussière derrière elle en configuration étonnante. L'atmosphère était extrêmement ténue sous le dôme du champ de confinement. Elle avait froid malgré les éléments chauffants de sa grande cape. Elle demeura quelques instants immobile au centre de la plaine monotone et essaya d'imaginer ce que devait être la lune lorsque les hommes, au sortir du berceau, y avaient fait leurs premiers pas. Mais les gradins de la force et les hangars de stockage du matériel l'empêchaient de se concentrer. Abandonnant ses efforts futiles, elle leva les yeux pour regarder ce qui l'avait fait venir ici. L'ancienne Terre était suspendue dans un ciel noir, mais ce n'était pas la planète elle-même qu'elle voyait naturellement. Ce n'était que le disque d'accrétion vibrant, le nuage sphérique de débris laissé par l'ancien monde natal de l'humanité. La surface du disque était lumineuse, bien plus que n'importe quelle étoile vue de Patofa par la nuit la plus claire. Mais cette brillance avait quelque chose d'étrangement surnaturel, et la lumière qui tombait sur la plaine lunaire était sinistre. Gladstone contemplait ce spectacle pour la première fois. Elle n'avait jamais souhaité venir ici avant, et elle aurait voulu désespérément, maintenant qu'elle était ici, ressentir une inspiration, entendre une voix qui lui donnerait un conseil ou un avertissement. Elle n'entendit rien. Elle s'attarda encore une dizaine de minutes, sans penser à rien de particulier. Ses oreilles et son nez étaient engourdis par le froid. Elle décida de rentrer. Le soleil n'allait pas tarder à se lever sur Tessé Carré. Elle avait activé la porte et jeté un dernier regard au paysage lunaire avant de se distransporter lorsqu'une autre porte commença à se matérialiser à une dizaine de mètres d'elle. Elle attendit. Il n'y avait pas 5 personnes dans tout le Retz qui disposaient d'un accès privé sur la Lune. Le mini-drone descendit en bourdonnant pour s'interposer entre la présidente et la silhouette qui émergeait du cadre distance. C'était Leg Hunt. Il regarda autour de lui, frissonna, puis se rapprocha d'elle à pas rapide. D'une voix ténue comme celle d'un enfant, une voix que l'atmosphère raréfiée de la zone de confinement rendait presque comique, il s'écria
« Hache présidente, vous devez rentrer immédiatement. Les extros ont réussi à lancer une contre-offensive d'une ampleur inattendue. »
Elle soupira. Elle s'était attendue à quelque chose de ce genre.
« Très bien, »
dit-elle.
« Hyperion est tombé. Sommes-nous en mesure d'évacuer nos forces ?»
Hunt secoua la tête. Ses lèvres étaient bleuies par le froid.
« Vous ne comprenez pas, » dit-il d'une voix qui semblait encore plus frêle. « Il ne s'agit plus seulement d'Hyperion. Les extros nous attaquent en une douzaine de points. Ils envahissent le Retz !»
Soudain, lasse et engourdie, plus par le choc que par le froid lunaire, Mayna Gladstone hocha lentement la tête. Serrant la cape autour de ses épaules, elle franchit la porte pour regagner un monde qui n'allait plus jamais être le même.